Bonjour à tous, nous sommes en direct depuis Manosque sur Fréquence Mistral pour le magazine Destination Haute-Provence que nous réalisons avec l'Office de Tourisme Communautaire de Durance-Luberon, Verdon, Agglomération. L'émission est animée par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Et le thème de ce numéro est les randonnées pédestres.
Oui Olivier, le territoire de la DLVA et plus largement la Provence est un terrain propice aux balades variées, notamment à pied, et de nombreuses offres existent. C'est ce que nous allons voir avec nos invités, parmi lesquels Pierre Paya, accompagnateur en montagne, présent également Stéphano Blanc, éco-garde au parc du Verdon, et Antoine Riffaut, moniteur activité pleine nature à l'agglomération manosquine. Nous écouterons aussi les interviews de plusieurs professionnels. Arnaud Poupounot est accompagnateur de randonnée nature, mais aussi littéraire. Gérard Marignane, lui, est accompagnateur en moyenne montagne, basé dans le Verdon, et également Audric Jaubert pour le département des Alpes de Haute-Provence, car le 04 offre 300 itinéraires variés, soit près de 7000 km de parcours aménagés pour la randonnée. Et pour cette émission, on vous emmène en randonnée, donc, et on va vous faire marcher, sans blague. Notre premier invité travaille à l'Office de Tourisme Communautaire de DLV Agglo. Bonjour Antoine Riffaut.
Bonjour.
Vous êtes moniteur pour les activités pleine nature. Les randonnées, ce sont des valeurs sûres de l'offre touristique.
Oui, tout à fait. La randonnée pédestre, c'est une activité qui fait partie de nos priorités parce que c'est une activité qui sont très importantes. C'est l'une des plus pratiquées en France. Donc, faut vraiment être précis sur ce que l'on propose, sur l'offre, qu'elle soit qualitative.
On peut randonner aussi dans notre territoire en vélo ou à cheval, mais là on va parler que de la randonnée à pied. Un mot cependant sur les autres randonnées.
Oui, effectivement. Donc moi je suis chargé du développement des activités pleine nature pour l'Office de Tourisme Durance-Luberon-Verdon Agglomération. Et effectivement, on travaille pour avoir une offre complète d'équipements ou aussi d'événements, que ce soit sur le pédestre, le VTT, le cyclo, l'équestre, même le nautique ou autre, suivant la demande, on peut réagir dessus. Hein.
Alors, on parle maintenant des randonnées pédestres. Sur quel territoire et sur quelle distance et parcours on peut randonner à pied ?
Donc, sur le territoire, donc nous, en ce qui nous concerne, pour le territoire de la Durance-Luberon-Verdon-Agglomération, on a plusieurs itinéraires, soit la demi-journée, la journée, mais on a aussi des grands itinéraires comme le GR4 ou le GR69, la Routeau, qui peuvent être en itinérance, comme d'autres circuits que l'on appelle des GRP, donc ce sont des grandes randonnées de pays, comme par exemple le Tour du Lac d'Esparron, qu'on peut faire pour les plus costauds en 2 jours, mais plutôt c'est 4-5 jours que l'on recommande.
Il y a des documents qui sont donnés aux personnes susceptibles de faire ces randonnées, je dois dire, randonnées tout seul, sans accompagnateur, est-ce que c'est possible ?
Oui, tout à fait. Donc nous, à l'Office de Tourisme, nous proposons des itinéraires qui sont balisés à la journée. Ça nous permet de structurer l'offre de la randonnée pédestre sur notre territoire, puisque voilà, nous, l'activité pédestre, c'est vraiment une activité prioritaire, parce que les Français pratiquent déjà, eux, cette discipline tout au long de l'année, mais aussi, c'est l'une des activités qui est vraiment très demandée sur les périodes touristiques. Donc, nous avons des cartes qui sont disponibles dans les offices de tourisme pour des circuits balisés pour Oraison, Riez, Quinçon-Saint-Laurent, Gréoux-les-Bains. Et nous travaillons actuellement aussi avec les parcs, donc là, principalement le parc du Luberon et le parc du Verdon, sur des itinéraires pour Montagnac-Montpezat, Valensole, Esparron de Verdon et Manosque.
Les touristes, je suppose, apprécient. Les locaux également doivent apprécier ce type de balisage et de proposition.
Bien sûr, oui. Là, on a parlé de tourisme, mais faut bien se rappeler que les premiers à profiter des équipements qui sont proposés, ce sont bien sûr les locaux. Hein. Donc, c'est très important d'avoir une offre opérationnelle tout au long de l'année et communiquer sur ce qui est possible de faire.
Quand vous proposez un itinéraire balisé, vous passez dans des chemins privés ou des domaines privés ?
Donc, pour valider un parcours pédestre, donc on travaille aussi avec, comme je l'ai dit, avec le parc et le département. Effectivement, nous devons ce que l'on appelle maîtriser le foncier, c'est-à-dire avoir des accords de passage sur toutes les parcelles si elles sont privées ou même si c'est public. Il faut quand même informer le passage d'un itinéraire balisé. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir passer à la phase suivante qui est donc le balisage matériel sur le terrain et communiquer aussi par support papier. Donc, par exemple, nous, les fonds de carte que nous utilisons, Ce sont des cartes qui sont proposées par le département, donc on répond à une charte graphique. Et donc le pratiquant va pouvoir retrouver le même type de carte sur Gréoux-les-Bains comme à Barcelonnette par exemple.
On peut utiliser éventuellement des outils numériques quand le réseau est là.
Oui, mais donc on peut utiliser de plus en plus on travaille avec le numérique. Donc Stéphano va en parler tout à l'heure parce qu'on a des sites en ligne, on peut avoir accès à ces données-là. Mais les outils de nos jours permettent aussi de télécharger ces fichiers et de pouvoir les utiliser hors connexion. Donc que ce soit nos GPS pédestres, VTT ou nos smartphones nous permettent d'avoir des applications hors connexion qui permettent de se retrouver en cas de difficulté d'orientation.
Alors on peut être évidemment en randonnée les yeux fixés un moment sur son portable, mais profiter quand même du paysage, quoi. C'est quand même l'essentiel, évidemment.
C'est la priorité, hein. Sur le territoire, nous avons effectivement des circuits qui ont un intérêt, au niveau de paysage, de dépaysement, qui fonctionnent très très fort, hein. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'on a plein d'autres circuits qui sont proposés, qui peuvent être aussi thématiques. Comme par exemple, je donne un exemple, hein, on a créé des circuits onéotouristiques pour venir découvrir un petit peu tout ce qui se passe sur le territoire, sur la culture du vin, de la vigne. On a aussi d'autres circuits où on va parler de patrimoine. Donc c'est super important de venir découvrir ça. Et ça peut aussi donner des idées aux locaux, hein, s'ils ne savent pas quoi faire. On a vraiment plein de choses à découvrir. Et c'est ça que nous, on veut faire passer comme message à Office de Tourisme, c'est qu'on a vraiment de nombreux paysages divers et variés, de nombreux thèmes. Il ne faut pas hésiter à être curieux, à venir pousser les portes de l'Office de Tourisme pour qu'on puisse vous aider à choisir le bon circuit qui est adapté pour la famille, pour les individuels, pour les groupes et les itinérances.
De même, je suppose que si quelqu'un travaille dans un domaine viticole ou dans un domaine patrimonial, culturel, peut joindre l'Office de Tourisme pour faire une proposition sur une halte ou sur une escale particulière dans le cadre d'une randonnée.
Oui, ça c'est quelque chose qui est très fort, qu'il faut mettre en avant, n'importe quelle activité, même le vélo, donc là on parle de pédestre, c'est venir découvrir le territoire, mais aussi venir découvrir les locaux, les acteurs locaux, qu'est-ce qui s'y passe, la culture. Et oui, on peut avoir des circuits thématiques bien ciblés ou proposer des découvertes de ce genre-là autour du miel, du vin, de la fabrication, des choses comme ça. Ouais.
Alors c'est justement un petit peu l'activité de la première interview que nous allons écouter, c'est notre ami Arnaud Poupounot. Et pour lui, Arnaud Poupounot, c'est la randonnée de la tête et des jambes. La balade vers des itinéraires nature classique, patrimoine, faune, flore, paysage, mais aussi vers des producteurs locaux, vous le disiez Antoine. Des sorties qui se concluent souvent par des dégustations très appréciées. Il est également versé vers la littérature, admirateur de Jean Giono et de René Frény. Il organise des sorties thématiques avec la librairie Le Bleuet à Bannon. Et Arnaud Poupounot propose également des randonnées lointaines aux confins du pôle Nord pour un dépaysement garanti. Une interview d'Olivier Mouly.
Arnaud Poupounot, vous proposez une activité à la fois de découverte, de pleine nature et littéraire.
Tout à fait. J'habite dans le village de Bannon, qui est un lieu propice pour les départs de randonnée autour de Bannon jusqu'à la montagne de Lure. Les différents thèmes abordés sont la découverte du patrimoine faunistique, de la végétation également, et puis également l'histoire de notre pays à travers les bergeries notamment, et puis beaucoup de randonnées littéraires également avec l'enfant du pays, Jean Giono.
Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'allier ces deux activités, à la fois le livre et la nature ?
Je suis un passionné de littérature depuis mon plus jeune âge et je dois dire que c'est notamment la librairie Le Bleuet en fait de Bannon qui m'a complètement convaincu et donné envie de me lancer dans ce projet-là. Et l'écrin de la nature des environs de Manosque, de Bannon, est parfait pour lire les romans de Jean Giono.
À quel public s'adressent vos sorties ?
À tout public. Il arrive qu'on parte avec des scolaires à partir du CM1, CM2. Donc là, on utilise les œuvres, notamment L'homme qui plantait des arbres, les œuvres les plus accessibles de Jean Giono. Ensuite, il s'adresse à tous les amoureux de la littérature, qu'ils soient ou non connaisseurs de l'œuvre de Jean Giono. Après, on se sert de lieux où l'auteur a supposé écrit ses livres, ou du moins s'en est inspiré.
Ça peut être aussi bien des enfants que des adultes, c'est ça ?
Absolument. Les adultes, qu'ils soient connaisseurs ou pas hein, de l'œuvre de Giono, sont toujours férus de découvrir ce qu'un auteur si fameux que Jean Giono a pu raconter avec cet environnement que tout le monde connaît et qui lui transforme en moment unique grâce à, à son talent.
Au milieu de paysages parfaitement exceptionnels.
Ah, tout à fait. Notre région est d'une richesse absolue en matière de nature, de paysage. Il suffit de partir de la vallée de la Durance, Manosque, avec ses grands plateaux de Valensole, qui sont splendides. Et à l'opposé, nous pouvons souvent terminer ces randonnées sur le sommet de la montagne de Lure, qui joue un rôle très important dans l'œuvre de Jean Giono.
Pour ce qui concerne justement ces sorties littéraires, vous êtes exclusivement basé sur l'œuvre de Giono ou vous avez parfois d'autres auteurs?
Alors non, absolument, tous les auteurs sont les bienvenus sur les randonnées littéraires, qu'ils soient contemporains ou classiques. Il y a quelques jours, nous avons fait une rando littéraire avec la librairie Le Bleuet, avec un auteur du coin qui s'appelle René Frény. Moi, je suis tombé dans la littérature quand j'étais enfant grâce aux romans de Stevenson et de Jack London notamment. Ils sont invités également dans nos randonnées littéraires et voilà, c'est vraiment au gré de mes envies et on essaie de faire un programme conjoint avec la librairie pour coller à son actualité la plus proche avec ses rencontres qui ont lieu tous les samedis matins avec des auteurs.
Toutes ces sorties sont-elles littéraires ou vous faites également des randonnées, j'allais dire simplement de découvertes?
Ah oui, je fais beaucoup de randonnées de découvertes de la nature et notamment j'essaye d'organiser des rencontres avec des acteurs, des producteurs locaux que j'ai appelés soit des randonnées gourmandes ou des randonnées terroirs. Donc, ils sont des randonnées au départ de Bannon ou des villages aux alentours. On marche quelques heures, en général une matinée. Et en fin de matinée, on va rencontrer un producteur de chèvres ou un maraîcher bio ou un brasseur de bière. Voilà, des acteurs locaux. Et ça va permettre cette rencontre avec les gens. Et cette rencontre se fait par le biais de la randonnée. Et ensuite, on participe à la découverte du lieu et ça se finit toujours par une petite dégustation, voire un bon repas sur les lieux. Et puis ensuite, les autres randonnées classiques de nature, où on va observer les bergeries en pierre sèche de la montagne de Lure. On peut aller observer les animaux sur les crêtes de Lure également.
Quels animaux, par exemple?
Là-haut, on voit régulièrement le matin ou le soir des chamois qui viennent tranquillement se reposer et brouter l'herbe sur les crêtes. On voit beaucoup de vautours fauves, quelques rapaces également, des circadiens le blanc, beaucoup de chevreuils, des renards. C'est très agréable.
Vous proposez plusieurs durées pour ces randonnées. Ça peut aller d'une randonnée de quelques heures, voire quelques jours.
Tout à fait. Les randonnées sont d'une demi-journée à la journée, toujours sur un même thème littéraire ou sur la nature ou le patrimoine. Et il m'arrive d'organiser des séjours d'une semaine également dans notre région, toujours sur les mêmes thèmes de littérature ou sur la lavande quand c'est la période, ou à la découverte des randonnées gourmandes où tous les jours nous allons à la rencontre de ces fameux producteurs. Il y en a vraiment pour tous les âges, tous les goûts et surtout aussi tous les niveaux. Tout le monde est le bienvenu.
Des groupes de combien de personnes environ?
Lorsqu'on part à la journée, demi-journée, ça peut aller jusqu'à 15-20 personnes, sans problème. Par contre, lorsqu'on est sur une semaine de randonnée, on se limite à la capacité d'un minibus, c'est-à-dire 8 personnes.
Que reflète le nom que vous avez choisi pour votre entreprise, les artisans de la randonnée?
Les artisans de la randonnée, pour moi, est un nom très important. Et avant tout, je souhaitais que les gens comprennent tout de suite, immédiatement, ce qui les attend avec artisans de la randonnée, à savoir que tout ce que je propose, c'est fait par moi-même, avec des acteurs locaux, et j'essaye de décortiquer un petit peu tout le flot des offres touristiques de masse pour aller vraiment au plus près des gens, montrer que je veux vraiment favoriser cette rencontre avec les gens. Toutes mes randonnées, tous mes circuits sont vraiment faits main, par moi-même.
Vous êtes tout seul à faire ces sorties ou vous êtes plusieurs?
Non, je suis tout seul. Je suis tout seul artisan de la randonnée. C'est Arnaud Poupounot pour le moment. Voilà.
Arnaud, vous proposez également des sorties à l'extérieur du territoire du 04, mais là, réellement loin de l'extérieur.
Oui, je suis guide polaire depuis 23 ans maintenant. J'ai eu la chance de découvrir ces régions un peu par hasard avec la Norvège. Je suis tombé complètement sous le charme de cette nature si brute et si généreuse qui offre l'Arctique en général. Donc là, il s'agit pas de demi-journée, hein, ce sont plutôt des séjours d'une semaine à deux semaines où je vous emmène découvrir ma terre de prédilection qui est l'Islande et la Russie également. Voilà, et la variété de ces paysages.
Vous avez un site, une page Facebook, un email pour vous contacter?
Oui, tout à fait. J'ai un site qui est en construction en ce moment et qui devrait voir le jour d'ici quelques jours qui s'appelle artisandelarandonnée.com. Artisan au pluriel. Et puis sinon, j'ai une plateforme également qui s'appelle Direct Mountain, sur lequel on retrouve Arnaud Poupounot et tous ses circuits. Voilà. Et puis évidemment, la page Facebook Artisans de la Randonnée aussi également qui existe, sur lequel vous êtes absolument conviés et le bienvenu.
Arnaud Pupuno, magnifique accompagnateur, et retour en plateau donc pour cette émission spécifique sur les randonnées pédestres. On comprend donc que les professionnels s'allient avec d'autres acteurs comme le Bleuet de Bannon pour Arnaud, mais ils créent aussi leur propre structure, et c'est le cas de Gérard Marignan. Gérard Marignan a créé l'entreprise Errance au pluriel. Il est accompagnateur en moyenne montagne, à ne pas confondre avec les guides, et travaille dans le Verdon, vaste territoire connu et moins connu, mais il accompagne également ailleurs et sur commande. Il accueille aussi parfois des publics spécifiques, non-voyants ou personnes à mobilité réduite. Il participe aussi à la sensibilisation des publics, météo, risques d'incendie, etc. Gérard Marignan explique aussi la pratique de la marche nordique qui n'a pas besoin de connaissances linguistiques particulières, comme l'a appris notre ami Olivier Mouny dans cette interview.
Gérard Marignan, vous êtes accompagnateur de randonnée en montagne?
Oui, accompagnateur en moyenne montagne, exactement. C'est un diplôme d'État qui permet d'encadrer du public contre rémunération. La différence avec un guide, c'est uniquement qu'on n'a pas le droit d'amener des personnes hors sentier ou alors de les encorder, par exemple, sur un glacier. Voilà, ça, c'est réservé au guide. Dans le terme, c'est accompagnateur de moyenne montagne, mais il n'y a pas une question d'altitude. Du moment que c'est de la randonnée, qu'il y a un sentier, on peut faire n'importe quel sommet, c'est pas limité.
Vous accompagnez des groupes de combien de personnes?
Alors en principe, maximum 15 personnes. Déjà parce que c'est beaucoup plus convivial et puis bon, c'est plus facile lorsqu'on explique quelque chose. Et en plus, au niveau légalité, au niveau assurance, c'est 15 personnes maxi. Après, c'est un peu à l'appréciation du guide par rapport au terrain. Mais bon, en général, on se limite à ça parce qu'après, le groupe est beaucoup trop étendu et il bénéficie pas des explications, quoi. Quelque chose d'important, c'est que en plus des particuliers, des groupes ou des associations, je travaille aussi avec des associations de non-voyants, des associations aussi de personnes à mobilité réduite ou enfin avec d'autres handicaps, même des handicaps mentaux. Je pense que c'est important de le préciser.
Lorsque vous faites ces accompagnements, j'imagine que vous expliquez les paysages dans lesquels vous promenez.
Tout à fait. Ben, c'est un peu ce qui fait notre force par rapport à toutes les applications qu'il y a, puisque maintenant, quelqu'un qui a l'habitude de marcher et de lire des cartes, il y a tellement d'applications avec les GPS, avec toutes les solutions qu'il y a à l'heure actuelle. À la limite, on pourrait très bien se passer d'un accompagnateur. La force, c'est de pouvoir justement expliquer les paysages, la géologie, puisqu'on est un peu des généralistes de la montagne, en fait, hein, par rapport au guide qui est plutôt un spécialiste. Nous, on est un peu un généraliste, c'est-à-dire qu'on a des connaissances sur la flore, sur la faune, sur la géologie, sur la météo, sur l'environnement, et donc ça permet d'apporter des infos aux gens et de faire vivre la randonnée.
Lorsque vous dites « on », vous parlez des accompagnateurs en général ou vous avez une entreprise ou une société où vous êtes plusieurs?
Non, moi je suis en auto-entreprise, je suis tout seul et je travaille en fait en freelance pour plusieurs agences, même des grandes agences internationales.
Votre entreprise, ça a un nom?
Oui, elle s'appelle Errance.
Au pluriel?
Au pluriel. J'aime bien errer.
Nous parlions de moyenne montagne. Dans quel territoire vous promenez-vous? Pour ce qui concerne le 04, en tout cas.
J'ai deux pôles d'activité. En fait, j'ai une partie où je travaille en direct pour ma petite auto-entreprise et une partie où je travaille pour les agences. Donc, pour les agences, ben, effectivement, je vais partout où on m'envoie, hein, que ce soit à l'étranger ou partout en France. Par contre, ce que j'essaye de faire avec mon auto-entreprise, c'est de travailler sur le 04 et le 83, bien ciblé sur le Verdon, souvent. J'ai d'ailleurs la marque Valeur Parc pour une sortie sur Quinçon, qui est la limite en fait entre le Var et le 04. Et donc j'essaye de faire un maximum de sorties sur ces endroits-là et aussi sur le périphérique du Verdon, parce qu'on est souvent axé, quand on parle Verdon, on parle les gorges, les basses gorges, les grandes gorges. Bon, alors qu'en fait sur la périphérie, il y a plein de balades super sympas avec des points de vue justement sur les gorges aussi qui sont remarquables et beaucoup moins courues que les gorges par elles-mêmes.
C'est un territoire extrêmement fréquenté, notamment en été. Il y a sûrement des dangers ou des écueils à vitesse. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à des randonneurs?
Il y a déjà une question de chaleur. C'est vrai que c'est pas toutes les randonnées qui peuvent être faites l'été. Si c'est pas au couvert d'un couvert forestier, il fait vraiment très chaud. Ensuite, il y a les risques d'incendie. Ça, il faut vraiment le prendre en compte parce qu'il y a souvent des massifs. Alors, un peu moins dans le Verdon, c'est plus un peu plus bas, en fait, sur l'Estérel ou sur où là, c'est pratiquement fermé tout l'été. Le Verdon, ponctuellement, ça peut être fermé. Donc ça, c'est la première chose, se renseigner sur les sites de la préfecture, dans les offices de tourisme, et puis qu'ils sont au courant. Hein. Ça, c'est très important parce qu'il y a des fois des secteurs qui sont fermés. Donc les personnes peuvent se déplacer bêtement pour rien. Ensuite, même si c'est pas fermé, ça veut pas dire que ce soit pas dangereux. Donc il faut vraiment prendre conscience que la moindre telle, une cigarette, la moindre chose peut être catastrophique et peut être dangereux puisque le feu va très vite, surtout s'il y a un peu de vent. On risque d'être coincé sur place, quoi. Donc ça, c'est vraiment la première chose dont il faut se préoccuper, quoi.
Prévenir de ces sorties lorsque l'on part seul.
C'est vrai que c'est pas recommandé de partir seul, mais dans ce cas-là, effectivement, il faut prévenir quelqu'un, lui dire où on compte aller, vers quelle heure on compte être rentré, effectivement, et avoir un portable. Alors, dans les gorges ou sur le Verdon, ça passe pas partout. C'est pour ça que c'est quand même assez dangereux de partir tout seul. C'est conseillé d'être au moins deux.
Vous pratiquez la marche nordique. J'imagine qu'il ne s'agit pas de se balader en groupe en parlant finlandais ou norvégien.
Pas du tout. Pourtant, ça vient bien de Finlande, effectivement. C'était à la base, c'est l'entraînement des skieurs de fond finlandais, puisque l'été, il n'y a pas de neige, donc ils sont obligés de continuer à s'entraîner. Et ça a été inventé par une dame, par une Suédoise. Et ça a été labellisé en France en 97. C'est pas si vieux que ça. C'est vraiment différent de la randonnée. Alors, quelquefois, on croise des randonneurs qui disent on fait de la marche nordique, mais ils font de la randonnée un peu plus rapide que de la marche normale. Mais c'est pas ça. C'est vraiment une technique à part, avec du matériel spécifique. Les bâtons sont pas du tout les mêmes que ceux de la randonnée, et la marche non plus. C'est vraiment une marche à part, une préparation physique. Ça peut vraiment apporter physiquement une bonne condition pour la randonnée, mais ça n'a rien à voir. En fait, on randonne pas en marche nordique. Marche nordique, c'est 1h30, 2h de séance, c'est vraiment une pratique sportive. Après, ça peut être une pratique sportive, mais adaptée à tous les niveaux. Ça peut être pour des enfants, ça peut être pour des personnes qui ont des problèmes de santé, de perte de poids. C'est vraiment quelque chose de particulier, quoi, de technique. On se retrouve avec quatre pattes, hein, les deux bâtons et nos deux jambes. C'est vraiment coordonné et qui fait qu'on peut aller très vite, hein, en marche nordique. On peut atteindre 8 km/h, presque comme en footing, quoi.
Gérard Marignan, si on souhaite vous contacter.
J'ai pas de site parce que comme je travaille aussi pour des agences, finalement, j'ai beaucoup de travail et c'est plutôt par bouche à oreille. Et puis aussi, je suis répertorié sur le site du parc du Verdon et dans les offices de tourisme, ainsi que pour la Provence verte, l'office de tourisme de la Provence verte. J'ai pas de site particulier. J'ai un mail et un téléphone. Pour le mail, c'est errance avec deux R et un S à la fin. errance@orange.fr. Et mon portable, 06 03 56 54 59. Il ne faut pas hésiter même à me contacter, dans le sens où même si des personnes veulent randonner tout seul, bon, je pense qu'ils peuvent appeler. Moi, je suis toujours enclin à leur donner des conseils parce que je pense que c'est un peu notre but aussi, le corps de notre métier, de pouvoir conseiller les gens et de leur expliquer un peu ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. On est un peu les ambassadeurs de l'environnement, hein, on va dire.
Gérard Marignan, on va continuer à parler de son métier justement d'accompagnateur avec un autre accompagnateur. Pierre Paya est à nos côtés, il est accompagnateur montagne. Bonjour Pierre.
Bonjour.
On va dire avec vous ce qu'il en est de ce métier de manière plus précise et plus territoriale. Quelles sont les propositions que vous faites en ce qui concerne la randonnée pédestre ?
Voilà, alors nous sommes un petit groupe d'accompagnateurs, donc je ne vais pas redire ce qu'ont dit mes collègues qui ont déjà bien présenté le métier. On s'appelle la Compagnie des Grands Espaces. Donc chaque fois, on remarque qu'il y a des références. Voilà, des références. Donc nous sommes quelques-uns, accompagnateurs et accompagnatrices, puisque nous avons une collègue avec nous. Et nous, on fait essentiellement là, des propositions sur Gréou, au départ de Gréou. Donc toute l'année, on suit l'ouverture des thermes, en fait. Là, on va commencer lundi prochain parce qu'on était un peu des délais. Mais après, on fait des randonnées, on propose des randonnées toute l'année jusqu'à la fermeture des thermes, c'est-à-dire jusqu'au début décembre. Ça se décline de la façon suivante. Il y a une sortie le mardi, dans un premier temps, début de saison, l'après-midi seulement, puis ensuite le matin et l'après-midi, la même randonnée le matin et l'après-midi, au départ de Gréou, à pied depuis Gréou, et ensuite le jeudi après-midi, et le dimanche, et dans ces deux cas, on prend des véhicules, donc on a un petit véhicule de l'office du tourisme, où il y a 8 places, et ensuite les gens peuvent prendre leur voiture en covoiture, pour aller un peu plus loin. Voilà. Donc, le mardi, ce sont des randonnées assez faciles d'accès. Il y a une gradation, disons. Hein. Comme il n'y a pas des centaines d'itinéraires au départ de Gréoux, on va plutôt faire des thèmes de sortie, puisque, comme le disaient mes collègues, nous sommes aussi des gens qui ont des connaissances sur la culture locale, sur, bien sûr, naturalistes. Voilà, donc on va axer nos sorties sur des thèmes. Et le jeudi après-midi et le dimanche, on va en profiter pour aller un peu plus loin, puisqu'on a les véhicules, découvrir la région aux alentours. Comme le disaient mes collègues, notre travail, ça consiste à faire l'intermédiaire, à faire l'interface, en fait, entre un pays qu'on connaît très bien, puisqu'on y a vécu toute notre vie, pour certains d'entre nous, et puis les gens qui souhaitent le découvrir.
Comme votre ami Arnaud Popounot, vous proposez aussi des randonnées à caractère littéraire.
Oui, aussi, oui. Les trois principaux de notre petite bande. Là, on travaille aussi avec le Centre Jean Giono à Manosque.
Avec quel texte que vous mettez en exergue, par exemple, dans vos balades?
Des textes de Jean Giono, ça dépend des sorties.
Ça dépend de l'air du temps aussi, un petit peu, quoi.
Oui, alors ouais. Bon, si on fait de temps en temps à Gréoux, on parle de Jean Giono et son ami Lucien Jacques qui a habité. Donc là, on va cibler plus sur... on va trouver des textes qui ont plus de rapport avec l'amitié entre Lucien Jacques et Jean Giono, soit avec Gréoux, puisque Giono aimait bien aller prendre les eaux à Gréoux.
J'en profite pour faire une parenthèse sur Lucien Jacques, qui est un personnage extraordinaire et dont la médiathèque de Gréoux porte le nom. Si vous avez un petit peu de curiosité, chers amis auditeurs, penchez-vous sur les écrits de Lucien Jacques. C'est le découvreur de Jean Giono et c'est vraiment un personnage très très attachant et très important dans notre territoire. Donc c'est bien de parler de Lucien, Pierre. Pierre, vous avez des conseils à distiller généralement à des personnes qui viennent vous voir, par exemple, en espadrille pour faire une randonnée. Qu'est-ce que vous dites dans ces cas-là?
Oui, ça arrive, alors, bon. c'est certain que quand on va dans le milieu naturel, il faut être un minimum équipé. Alors, la Provence n'a pas une connotation de montagne, d'un endroit difficile, mais quand on y circule, on s'aperçoit que c'est rocheux, c'est caillouteux, c'est escarpé éventuellement. Donc il faut être un minimum équipé pour pouvoir en profiter de façon détendue et pour éviter pour se faire plaisir, pour ne pas revenir avec une blessure quand même, ça peut arriver. Alors il ne s'agit pas de tomber dans des gouffres, mais même une cheville ou quoi que ce soit, ça peut être embêtant.
Prévoir de l'eau, une barre de céréales,
alors, de toute
un
façon,
chapeau.
On est dans des... Voilà, le minimum, c'est d'avoir avec soi, bien sûr, de l'eau. On est dans un endroit où il n'y a pas beaucoup d'eau disponible dans le milieu naturel, donc ce n'est pas facile d'en trouver en cours de route. Il faut pouvoir se protéger soit de la chaleur, bien sûr, ce qui est assez fréquent, soit des intempéries, ça peut arriver aussi. Alors, nous, quand la météo est prévue trop mauvaise, on annule les sorties. On est quand même là pour se faire plaisir. Il faut avoir de bonnes chaussures, si possible, les meilleures possibles, du moins, je veux dire. Le terrain est un peu rugueux, quoi. Voilà, pour le dire en quelques mots.
Il vaut mieux être prêt, quoi.
Voilà, il faut... Voilà. Et puis, un petit sac à dos, de quoi... pour pouvoir enlever et mettre ses vêtements. Quand on marche, on est sans arrêt en train de s'habiller et se déshabiller, en fonction des heures de la journée, du fait que le soleil apparaît ou non, voilà. Qu'on passe à l'ombre, ou qu'on est... Voilà, si le vent se lève, que sais-je. Voilà, on est en milieu naturel, on n'est pas en milieu protégé.
Pierre, avec vos amis, vous profitez, entre guillemets, de la structure Office de Tourisme Communautaire. Comment ça se passe quand les gens viennent, ils réservent une randonnée auprès des bureaux de l'Office de Tourisme?
Voilà, alors toutes les réservations se font par l'intermédiaire de l'Office de Tourisme. Soit directement au guichet, bien sûr, alors pas qu'à Gréoux, tous les guichets de l'Office de Tourisme Communautaire. Et maintenant, on peut aussi s'inscrire en ligne, on peut aussi acheter, hein, puisque c'est payant, son ticket en ligne.
Alors, c'est combien justement une randonnée, le prix moyen?
Il y a trois tarifs, puisqu'il y a trois sortes de sorties, c'est très simple. Donc le jeudi, le tarif est tout à fait modeste, puisqu'il s'agit de 6 euros. La sortie dure 3 heures. Le jeudi, c'est 15 euros pour l'après-midi. Et le dimanche, c'est 20 euros pour la journée. Je rajoute peut-être que le dimanche, c'est pas forcément le double du jeudi. Ce sont des randonnées un peu plus longues. Mais voilà, on essaie de rester quand même dans des amplitudes qui correspondent au public qu'on peut avoir et qu'on commence à bien connaître, puisque ça fait plusieurs années maintenant, enfin de nombreuses années même qu'on fait ces sorties.
Est-ce que vous avez un public familial avec des enfants, par exemple?
Dans le cadre des sorties Agrioux, assez peu. L'été, oui, l'été, mais pas le reste de l'année. Le gros des gens qui viennent avec nous, ce sont des gens qui sont à l'établissement thermal, qui sont en cure. On a aussi des gens des résidents. Bien sûr, ces randonnées sont ouvertes aux résidents du territoire. Voilà, on a des gens des villages alentours qui viennent régulièrement avec nous et ça fait plaisir, voilà, d'avoir aussi ces gens-là.
Et de transmettre votre passion pour le territoire, et ainsi que de partager aussi avec les visiteurs. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, Pierre, de sensibilisation, un petit peu de sécurité aussi quelque part. Et justement, c'est la mission des éco-gardes, notamment sur le parc naturel régional du Verdon. Et Stéphane Aublanc, qui est éco-garde au PNR du Verdon, est notre invité. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Quel est très exactement votre rôle ?
Alors, principalement, nous avons un rôle d'information, de sensibilisation, de protection des sites et des personnes.
Vous donnez, je suppose, vous distribuez des conseils extrêmement précieux aux personnes. D'abord, est-ce que vous êtes en tenue lorsque vous êtes dans la nature?
Alors, nous avons une tenue éco-garde et l'été, nous avons une tenue garde forestière régionale. En effet, la région finance le dispositif et nous sommes affiliés à la garde régionale forestière, principalement qui agit pour la prévention incendie et la prévention justement de tout risque de mise à feu dans nos forêts.
Combien est-ce que vous êtes dans votre effectif?
Nous sommes plus d'une vingtaine l'été, durant la saison estivale, et hors saison, nous sommes trois.
Et quand vous êtes en patrouille, vous êtes à plusieurs, je suppose, l'été?
Oui, nous faisons les patrouilles minimum à deux personnes.
Quels sont les types de conseils que vous donnez?
Alors, principalement, pour la randonnée, en tout cas, nous, ce qu'on conseille, c'est bien sûr de vérifier la météo, comme il a été dit auparavant. C'est très important, nous avons un risque d'orage dans les gorges du Verdon, ben, c'est pas le top. Ensuite, de vérifier l'équipement, ça a été aussi dit. L'eau, c'est très important, saison estivale, chaleur, risque de déshydratation. Donc, très important de boire, de s'hydrater régulièrement. D'éviter d'avoir des chiens non tenus en laisse. Et nous arrivons dans une période maintenant où la faune va mettre bas, les oiseaux, etc. Donc, il est interdit de laisser les chiens divaguer actuellement. Donc, soyez prudents, si vous avez des chiens, de les garder avec vous en laisse. Il faut savoir que trois sentiers sont interdits aux chiens, le Blanc Martel, l'Imbute et le sentier des gardes-canal à Quinçon.
Est-ce que vous faites aussi de la prévention et je suppose aussi parfois de la répression en ce qui concerne les risques incendies?
Effectivement, nous sommes deux agents au parc commissionnés assermentés au titre de la police de l'environnement, ce qui nous permet l'été de pouvoir verbaliser les personnes qui ont des comportements inadaptés, notamment en faisant des feux, ce qui est le véritable problème de nos régions. Nous sommes une région méditerranéenne assujettie à la sécheresse, donc un risque important, un incendie détruirait notre patrimoine naturel si précieux.
Lorsque vous verbalisez, ça représente quoi en termes de nombre de verbalisations, par exemple en été?
Ah ben après, nous travaillons aussi avec la gendarmerie, l'ONF, les
donc
services.
Donc c'est eux qui prennent le relais
Les deux, on peut verbaliser. Nous sommes à une vingtaine de verbalisations en tant qu'agents. Mais sinon, il y a les gendarmes qui verbalisent aussi, l'ONF. Donc ça peut représenter plusieurs centaines de verbalisations l'été.
Et les gens qui ont fait des infractions acceptent la sanction? Comment ça se passe?
Ben, malheureusement, 90% des feux qui sont allumés sont par des gens du territoire. Ce sont des gens du 04, du 06, du 83, du 13, du 84. C'est rarement, ça arrive, hein, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est rarement des Belges, des Suédois ou des Parisiens. Il y en a aussi, mais malheureusement, 90% des feux allumés sont par des gens du territoire. Ils se disent qu'ils maîtrisent, qu'ils connaissent, qu'ils ont l'habitude. Voilà. Alors que sous la pinède, l'été, ben, un feu, ça ne se fait pas. Les grillades, ça ne se fait pas. Il faut manger froid. Voilà, c'est le conseil qu'on va donner.
Le territoire du Verdon est aussi un territoire d'eau, Stéphano, vous le savez. Est-ce qu'il y a de la prévention noyade, hydrocution comment est-ce que ça se passe aussi de ce côté-là pour les éco-gardes?
Bien sûr, nous faisons de la prévention. Cette année, en plus, nous avons une mission qui nous a été confiée par EDF, puisque nous faisons beaucoup de prévention et sensibilisation sous les barrages, notamment liés au risque de turbinage. En effet, des turbinages importants où l'eau est lâchée à plusieurs mètres cubes mettent en danger les personnes qui se retrouvent sur les berges. Et les personnes aussi pourraient se retrouver dans l'eau qui perd plusieurs degrés. Donc ça va de, on perd facilement 7 degrés dans une eau très froide. Donc c'est relativement dangereux. Donc on fait de la prévention pour l'eau aussi.
On en profite pour rappeler que les panneaux de DDF, notamment, ne sont pas là pour décorer. Au contraire, ils sont là pour vous avertir, vous informer des gros dangers que vous risquez, par exemple, dans un cours d'eau quand il y a un lâcher. Donc, il faut le rappeler aussi, parce qu'on passe souvent à côté de tout cela. Je vous propose d'écouter... Ah non, il y avait encore un sujet que je voulais évoquer avec vous, Stéphano. Chemin des parcs, expliquez-nous ce que ça veut dire.
En fait, Chemin des Parcs, c'est une application sur Internet qui est mise en ligne par tous les parcs de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région Sud, donc c'est 9 parcs qui mettent en ligne. C'est quelque chose qui a été mutualisé pour pouvoir mettre en ligne tout le sentier de randonnée. Nous avons 4 activités de pleine nature, la randonnée pédestre, vélo, VTT et cheval. Nous avons 270 itinéraires sur plus de 2000 km de balade et de randonnée. Et ce qui fait l'intérêt de Chemin des Parcs, ce sont les POI, les points d'intérêt, qui parlent de patrimoine, de patrimoine bâti, de patrimoine naturel, de faune, de flore, de savoir-faire, point de vue, produit du terroir. Nous avons un territoire très riche, donc nous avons intérêt à faire connaître ce patrimoine et ce territoire à travers ces points d'intérêt.
Donc vous vous êtes structuré, c'est une excellente chose. Est-ce que vous passez, est-ce que les visiteurs ou les randonneurs peuvent passer d'un parc naturel à un autre, par exemple, je pense du Verdon au Luberon, qui sont juste à côté?
Il existe des gères de pays, des gères de grandes randonnées, comme l'a si bien dit notre ami Antoine au début, là. Donc effectivement, on peut passer d'un parc à l'autre, mais ce qu'il y a, c'est que c'est les parcs même mettent en ligne leur propre randonnée sur le territoire des parcs.
Ce qui est logique.
Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous mettons en ligne depuis cette année aussi de la randonnée qui peut se faire en partant en autobus depuis Manosque. C'est grâce à la DLVA Aglo qui met en ligne une ligne qui fait Manosque-Riez, donc qui permet d'amener les gens à Riez. Et là, ensuite, le relais par la ZOU, les autocars de la ligne de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et ça vous amène jusqu'à Castellano. Donc là, vous pouvez faire des randonnées à Moustier, à La Palue, et vous poser le matin et reprendre le bus le soir. Après, vous faites votre randonnée, comme le Blanc Martel, par exemple, qui est une sentier emblématique.
Et de profiter en toute sécurité de ce magnifique territoire que vous avez la chance, vous vous rendez compte, c'est la chance que vous avez de travailler dans ce territoire, Stéphano, avec vos amis. C'est une belle chose. Alors je vous propose, vous restez avec nous, hein, bien sûr, je vous propose une dernière interview qu'on va écouter. On va élargir notre vision après les parcs à l'échelle d'un département. Audric Jaubert est spécialiste des randonnées et sports de nature pour le Conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence, au service des communes notamment. Il a une bonne connaissance du territoire varié basalpin qui, de 400 mètres à 3400 mètres d'altitude, sur près de 7000 km pour la randonnée aménagée avec 300 itinéraires spécifiques. Et il est en charge aussi de la signalétique et participe au topo guide. Odile Frison l'a interviewé, l'a aussi questionné sur la rencontre possible des randonneurs avec les imposants chiens gardiens des troupeaux, les fameux et très capricieux patous.
Audric Jaubert, vous êtes technicien sport de nature au département. En quoi consiste votre métier ?
Notre objectif, c'est le développement maîtrisé des sports de nature. Mon travail, c'est de conseiller et d'expertiser pour la mise en œuvre des plans départementaux qui concernent la randonnée et les sports de nature. Donc, je monte des projets, j'instruis des demandes de subventions, j'accompagne aussi des communes et des intercommunalités pour l'entretien des sentiers.
J'imagine qu'il y a toujours beaucoup besoin d'entretenir les sentiers régulièrement.
Oui, constamment. Donc l'entretien de sentiers, ça peut être du débroussaillage, de l'élagage, des fois même du bûcheronnage, s'il y a des troncs qui sont tombés en travers des chemins.
Quel est le public qui fréquente ces sentiers, ces chemins de randonnée ?
C'est vraiment tout public. La randonnée est accessible au plus grand nombre. On trouve des familles, des groupes, des individuels, de tous les âges, de tous les profils aussi.
Est-ce que la randonnée pédestre dans notre département est qualifiée plutôt comme un loisir ou comme un sport ?
C'est vraiment les deux. Pour beaucoup, c'est un moyen de découvrir des grands espaces, de prendre un bain de nature, de partager des moments en extérieur. Alors que pour d'autres, ce sera la recherche du côté sportif, justement. Ils feront attention au dénivelé, aux distances aussi, comme pour le trail.
Quels sont les partenaires avec qui vous collaborez ?
Nous travaillons beaucoup avec les communes, les intercommunalités, qui sont responsables de la plupart des travaux et des aménagements pour les sentiers. On travaille aussi avec le comité départemental de la randonnée pédestre, avec qui nous sommes partenaires pour l'entretien des GR et des GR de pays. Bien sûr, on travaille aussi avec les parcs régionaux, la réserve géologique, l'ONF aussi.
Est-ce qu'il y a des particularités pour le 04 ?
On a la chance d'habiter un département qui est très varié. Une grande diversité de paysages, de 400 mètres à 3400 mètres d'altitude. Il y a vraiment tout type de paysages, de la plaine, de la moyenne montagne, du plateau, des gorges, des forêts. Et le tout sous un climat vraiment très favorable à la pratique de la randonnée.
Ça représente beaucoup de kilomètres.
De sentiers ?
De sentiers, oui. Ça représente combien dans le département ?
Alors le plan départemental des sentiers recense 6900 kilomètres de chemins aménagés pour la randonnée pédestre, mais aussi pour le VTT et pour l'équestre.
Est-ce qu'on trouve des panneaux ? Ça fait partie de votre travail aussi, de mettre des panneaux explicatifs sur la faune ou...
Oui, ça peut l'être. Donc il y a plusieurs types de panneaux. Il y a les panneaux au départ des randonnées, des panneaux d'information, sur lesquels vous trouverez justement de l'information sur le circuit, sur les distances, les dénivelés, mais aussi sur la faune, sur le patrimoine, de l'information d'ordre général et puis de sensibilisation aussi. Et puis après, vous croiserez aussi de la signalétique directionnelle qui indique le sens, les directions à suivre.
Les sentiers et les randonnées sont aussi classés par différents niveaux de difficulté. C'est indiqué aussi ?
Ça sera indiqué sur différents supports. On a parlé des panneaux au départ de sentiers, mais ça peut être aussi sur les topo-guides et les cartes de randonnée que les pratiquants peuvent trouver dans les offices de tourisme, par exemple, ou bien sur les sites internet aussi. Et là, je cite le site internet randoalpes-haute-provence.fr qui recense pas loin de 300 itinéraires de randonnée.
Combien d'associations de randonnée dans le département, vous savez ?
C'est difficile à dire. Il y a une vingtaine de clubs qui sont affiliés à la Fédération de randonnée pédestre. Après, vous avez d'autres clubs comme le Club Alpin. Enfin, il y en a beaucoup. Donc, je ne connais pas trop les chiffres. Peut-être une trentaine, peut-être plus.
Par rapport aux chiens patou, c'est devenu un peu, ces chiens de berger, un problème pour les randonneurs, j'ai envie de dire, pour avoir moi-même eu cette mauvaise aventure de rencontrer un chien plutôt agressif.
Il faut rappeler qu'on parlait de l'offre très diverse des randonnées dans le département, donc c'est vraiment une richesse et une chance d'avoir une telle diversité de paysages dans lesquels on peut évoluer. Et il faut savoir que les sentiers traversent des terrains qui peuvent être publics ou parfois ils peuvent être privés. Dans ces cas-là, nous avons obtenu une autorisation de passage. Il est toujours important de respecter en fait les autres usages, les autres pratiques. Et c'est aussi une chance d'habiter sur un territoire où le pastoralisme est encore bien présent. Donc il peut arriver qu'on rencontre des troupeaux en montagne. Là, il y a des consignes de base à respecter. Par exemple, ne pas traverser les troupeaux. Donc, c'est vraiment du bon sens, ne pas courir. Pour ceux qui sont à vélo, il vaut mieux descendre du vélo. Autant éviter d'emmener un chien aussi en montagne si on sait qu'on va croiser des troupeaux. Le tenir en laisse aussi. Et il existe des brochures aussi, très informatives, éditées par la DDT 04.
Brochure pour avertir des troupeaux ou...
Une brochure pour sensibiliser les pratiquants, qui indique les bonnes consignes à suivre aussi.
Est-ce qu'il y a des randonnées à thème ?
Alors, il existe, oui, de nombreux sentiers thématiques dans le département qui vont toucher à la faune, à la flore, mais aussi à l'histoire, au patrimoine, à la géologie aussi. Il y a des espaces naturels sensibles qui ont été aménagés avec de l'information au départ des chemins. Je pense là au lac de Mison, au sommet de Lure, les pénitents d'Aimée aussi. Et puis, bien sûr, il est possible d'aller randonner avec un accompagnateur en montagne qui vous fera découvrir des choses nouvelles. C'est toujours intéressant en fait, de sortir en randonnée avec un ou une passionnée.
Audric Jaubert pour le département des Alpes-de-Haute-Provence. Retour en plateau avec nos invités sur ce magazine particulier sur la randonnée pédestre. Audric en a parlé, on a un territoire qui est fantastique justement pour la randonnée, que ce soit le nord du département ou bien sûr tout le territoire de la DLVA. Je vais demander à nos invités de conclure, un petit mot de conclusion. On va commencer par l'accompagnateur en montagne, Pierre Paya.
Ben la
saison va démarrer d'ailleurs.
La saison démarre. À Gréoux, on commence mardi prochain. Nous, on travaille toute l'année, donc de toute façon, par ailleurs. Hein, mais la saison commence à Gréoux mardi prochain et bon, on vous attend.
Et évidemment, il faut réserver pour ça.
Il faut réserver, oui, par contre.
Il faut joindre les offices de tourisme du territoire.
Il faut réserver parce qu'il y a un minimum de personnes pour que la sortie ait lieu. Ça, c'est assez fréquent. Et il y a un maximum surtout. Donc voilà, les gens qui ne réservent pas risquent de ne pas avoir de place.
Merci Pierre. merci d'avoir participé à cette émission. Merci. Stéphane Aublan, les éco-gardes vont être sur la brèche aussi cet été, je suppose.
Ça va commencer dès le printemps avec les longs week-ends du mois d'avril, Pâques, mai, puis bien sûr cet été où ça va être un peu tendu, j'imagine. Le conseil, c'est bien sûr ne pas fumer en forêt. Sachez que vous risquez une amende de 135 €. Voilà. Ayez de bons réflexes, partir tôt le matin pour les randonnées, en tout cas l'été. Préférez les ailes de saison, le printemps, l'automne pour balader, c'est mieux. Il y aura moins de monde, les sentiers sont disponibles. Respectez aussi les troupeaux, bien sûr, attention aux patous et les barrières doivent être refermées. Et puis, quoi dire, restez sur les sentiers, bien sûr, ne pas s'éloigner, s'en détourner, c'est pas bon pour l'environnement. Le milieu fragile, surtout au printemps, ça va être le moment des orchidées. Donc tout ça, évitez le piétinement. Et pour terminer, je ne dirai qu'une chose, c'est il n'y a point de chemin vers le bonheur. Le bonheur, c'est le chemin.
C'est une belle conclusion. Merci Stéphano. Et puis moi, je rajouterai aussi, respectez les éco-gardes, parce que vous faites un travail remarquable et vous protégez la nature. Et donc, s'il y a des personnes qui agressent la nature, vous êtes un peu là aussi pour rappeler qu'on ne peut pas faire n'importe quoi et c'est une excellente chose. Le mot de conclusion de l'Office de tourisme communautaire, Antoine Riffaut.
Oui, merci pour l'invitation déjà. Et après, oui, le dernier mot, c'est venez nous voir. On a plusieurs offices de tourisme ouverts toute l'année. Manosque, Oraison, Valensole, Riez, Quinçon, Gréoux-les-Bains. Et on aura toujours quelque chose d'inédit à vous proposer, de nouveau, un événement. Donc venez nous voir, osez venir nous voir pour qu'on puisse... trouver de quoi vous occuper.
Parce qu'il y a des randonnées, bien sûr, mais il y a aussi des soirées théâtrales, musicales. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur ce territoire. Et vous êtes un acteur d'animation de ce territoire avec toute votre équipe, Antoine. Et c'est une bonne chose que Fréquence Mistral soit aussi en liaison avec l'Office de tourisme pour proposer ce type de magazine Destination Haute-Provence. Je vous remercie tous les trois.
Merci.
Merci à vous. Merci Antoine, merci Stéphano et puis merci Pierre. Et puis merci également à notre ami Olivier Mouly pour la régie et pour les reportages, ainsi que Odile Frison qui a participé à ce magazine. À très bientôt.